De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, une interview, un blind test et des chroniques. C'est une émission exemplaire aujourd'hui de Cinérama.
Au moins, bonjour à tous.
Bonjour Marine, bonjour, bonjour Manu. Alors le sommaire aujourd'hui, voilà, deux films pour toi Marine.
Oui, pour ma part, un film tunisien, Un fils avec Samy Bouajila et un film brésilien, Trois étés.
Et toi Manu aussi, deux films.
Deux films aussi, oui. Donc La bonne épouse de Martin Provost et puis une reprise, Blue Velvet de David Lynch.
Et puis moi, eh bien, j'ai un film et un blind test. Le film, c'est Congo de Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. On écoutera Adrien Lavapeur que j'ai pu rencontrer avec plaisir parce que c'est un excellent documentaire. Et puis, j'ai préparé un blind test spécial Juliette Binoche puisqu'elle joue dans La bonne épouse. Ainsi débute Cinérama avec un fils, un premier film, un drame intime et politique qui se déroule en Tunisie.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Fares et Meriem sont deux jeunes quadragénaires tunisiens. Ils sont très amoureux et parents d'un petit Aziz. Un jour, un drame survient, mettant les jours de leur enfant en danger. Celui-ci a besoin d'une greffe en urgence. Or, les analyses vont révéler que Fares n'est pas le père biologique de Aziz et qu'il n'est donc pas donneur compatible. Commence alors une course contre la montre pour sauver l'enfant, tandis que le couple se délite peu à peu.
Dernière, allez. Okay.
Mais vraiment une dernière, hein?
Ah,
mais vraiment!
Alors, il y a quelques mois, je parlais de Noura Rêve, un film tunisien, un film qui évoquait cette loi donc tunisienne complètement rétrograde, selon laquelle l'adultère est encore puni aujourd'hui par une sévère peine de prison. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si cette loi était appliquée en France. Je pense que les prisons se seraient surpeuplées. Cette loi et son impact donc sur la société tunisienne sont également présents, mais de façon sous-jacente dans Un fils, puisque le drame qui survient va mettre le couple face à ses démons et à son passé, faire ressortir les vieilles rancœurs, les infidélités qu'ils ont traversées, et réveiller chez Fares un vieux fond de sexisme. Dans une société encore totalement patriarcale et religieuse, il n'est finalement pas si simple d'être moderne. C'est le premier film du jeune cinéaste Mehdi Barsaoui qui choisit ici d'utiliser l'intime à travers cette relation de couple pour évoquer les grandes problématiques de la société tunisienne. Alors il y a dans le film une vraie puissance dramatique, hein. Il se passe en quasi huis clos et en partant d'un seul événement. Et il offre sur 1h30 eh bien, une radiographie subtilement cruelle de cette société tunisienne et de ses maux. Il est question de terrorisme, de trafic d'organes, de religion. Il est surtout question de tradition et de modernité, de la façon dont les deux s'entrechoquent en causant de nombreux dégâts collatéraux. Le duo d'acteurs Samy Bouajila et Najda Ben Abdallah est excellent. Alors autant vous dire que la dernière fois que j'avais croisé Samy Bouajila, c'était dans une production Netflix qui s'appelait Paradise Beach, qui se déroulait dans les bars à striptease de Phuket. Je n'étais donc pas mécontent de le retrouver dans une production d'un niveau un petit peu supérieur. Un fils, c'est un drame très réussi à l'image de ce que le cinéma tunisien nous a offert cette année. On ne peut que se réjouir de la forme actuelle de ce cinéma. Hein. Récemment, alors je ne l'ai pas chroniqué ici, mais j'ai vu Un divan à Tunis avec Golshifteh Farahani qui traitait également des désirs d'émancipation de cette société conservatrice, mais avec beaucoup plus d'humour et de légèreté. Un cinéma donc en très grande forme.
On va passer maintenant à la comédie de l'émission. C'est comédie féministe, La bonne épouse.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît.
Pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Bienvenue hein, dans la France, on va dire, sexy et rock'n'roll de Gaulle hein, des années 60. Alors, par je ne sais quel a priori, bah, un peu stupide, hein, je m'étais jusque-là tenu à l'écart des précédents films de Martin Provost, de Séraphine à Sage-Femme. Alors, depuis l'année de Juliette, hein, qui était sortie au début des années 2000 et qui ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Alors, c'est un peu à reculons que je suis entré dans la salle pour découvrir le nouveau film du cinéaste, La Bonne Épouse. Une salle, par ailleurs, très féminisée et surtout très âgée. Alors, rien d'étonnant aussi, vu le sujet hein, qui se déroule juste avant les événements de 68, quelque part dans une campagne reculée, loin des bouleversements qui agitent les villes avec tous ces étudiants et ces travailleurs en colère prêts à renverser le pays. Alors, à l'opposé de cette agitation citadine, dans un petit coin perdu de l'Alsace, existe une école de ménagères, donc tenue par Paulette van der Berg, épaulée par sa belle-sœur, une vieille fille rêvant du grand amour et une nonne gentiment irascible. Elle enseigne depuis plus de 20 ans l'art de tenir son foyer impeccablement et de se plier aux devoirs conjugal avec le sourire à des jeunes filles qui commencent à être un peu en décalage avec cette éducation stricte pour être polie. Hein. Alors si en 45 les femmes ont acquis le droit de vote, ce n'est qu'en 65 qu'elles obtiennent le droit d'exercer une activité professionnelle et de posséder un chéquier à leur nom. Ça nous vaut quelques séquences assez drôles dans le film d'ailleurs. L'aspect à rien suranné du film de Martin Provost n'a rien de consensuel. Il restitue à merveille l'atmosphère à la fois insouciante et inégalitaire d'une époque qui va vivre certains changements radicaux.
La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères.
Je veux te revoir.
Non ! Afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée.
Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, sache que je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine.
Tu sais faire la cuisine, toi ?
Comme ça, quand on entend la bande-annonce, on se dit que le film enfonce un peu des portes ouvertes. Mais il faut bien penser qu'on est quand même en 67-68 et que les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est une sorte de feel-good movie tendre et satirique. Alors, centré autour de trois figures féminines ayant dépassé la cinquantaine, La Bonne Épouse, alors loin des gaudrioles un peu grasses qui sévissent sur les écrans, est une comédie plutôt réussie, admirablement dialoguée et rythmée par une mise en scène alerte, tout entière au service d'une mécanique bien construite. Alors justement, la construction du récit évoque davantage l'esprit de certaines BD forçant un peu le trait pour mieux rendre compte l'esprit d'une époque. Les personnages sont bien dessinés, juste qu'il faut de caricatural pour susciter l'adhésion et provoquer le rire, à commencer par le fameux trio dominé par une Juliette Binoche qui exécute un show étourdissant. Alors parfois très énervante, voire crispante dans certaines de ses dernières prestations, je trouve, ça c'est personnel, elle cabotine ici pour notre plus grand plaisir, révélant un talent comique assez peu exploité durant sa carrière. Alors pour supporter cette tornade, il fallait des actrices de poids en face, parce que c'est toujours le problème quand quelqu'un vampirise l'écran à ce point-là, en fait. Mais Yolande Moreau, en vieille fille cuisinière, fan de Adamo, et surtout Noémie Lovski, hilarante en bonne sœur, sont prodigieuses. En contrepoint de cette partie burlesque, Martin Provost dresse un joli portrait d'un groupe de jeunes filles, proches de la révolte, en opposition aux valeurs enseignées depuis des lustres par leur famille, pas si éloignée finalement de leur directrice, qui cache un peu son jeu, qui n'est pas ce qu'elle paraît être au fond. Ces filles ne rêvent que d'une chose, d'amour et de liberté, à travers une émancipation possible. Alors une douce subversion traverse cette chronique de mœurs féministes, rendant un hommage très réussi au plus anarchiste des films français, Zéro de conduite de Jean Vigo, lors d'une émouvante bataille de Polochon où deux jeunes filles vont se déclarer leur amour. Il s'agit sans doute, à mon sens, certainement par l'aspect référentiel, du moment le plus beau de ce petit film plein de charme qui résonne avec l'actualité récente. Alors le film se clôt par un autre hommage, cette fois-ci à Jacques Demy, grand cinéaste, qui à travers ses films légers et pop, distillait des idées sulfureuses et progressistes. La comédie musicale s'empare du film de manière assez maladroite et appuyée, cela dit, martelant un texte engagé en forme de tract, épilogue trop didactique pour emporter l'adhésion. Alors la réussite fragile de La Bonne Épouse se retrouve soudain malmenée par un discours féministe peut-être un peu lourd. Mais malgré cette sortie de route finale, la bonne épouse s'avère globalement une très bonne surprise. Et on passe un bon moment pour un film qui n'est pas idiot en plus.
Et donc avec Juliette Binoche. Et c'est l'occasion donc de jouer un blind test avec l'actrice qui a quand même 34 années de carrière avec 73 films ou séries à son actif. Et puis 4 Césars, rien que ça, pour la meilleure actrice et un Oscar, celui du meilleur second rôle. Donc voilà, autant dire qu'elle a des prix et qu'elle a une grosse filmographie. On a choisi 5 films. Voilà, vous écoutez les extraits, il faut trouver ce premier titre.
Je sais très bien ce que vous avez fait pour moi. Mais vous voyez, je suis une femme comme une autre. Je transpire, je tousse. J'ai des caries. Je vais pas vous manquer. Vous en êtes sûrement rendu compte. N'oubliez pas de claquer la porte en sortant.
C'est un peu austère, c'est...
Bleu de Christophe Kieslowski.
Mais pas tant que ça.
Elle a quand même dit je transpire et je tousse, ce que je trouve pas hyper safe en ces temps troublés de coronavirus. Je trouve que cet extrait est un peu dangereux.
Oui, alors, mais c'était en 93, donc, le film de Kieslowski, donc, qui était une trilogie. Et là, c'était l'histoire d'une femme qui se reconstruit après la perte de sa fille et de son mari en faisant table rase de son passé. Lion d'or et meilleure interprétation féminine donnée à Juliette Binoche à Venise. Et puis 3 Césars hein, pour le film. Allez, deuxième extrait.
Vous êtes toujours comme ça, aussi cérémonieux?
Vous trouvez ça ridicule?
Non. Au contraire, c'est très rassurant de rencontrer quelqu'un comme vous, dans les circonstances où nous sommes. J'aimerais féliciter la personne qui vous a élevé. C'est votre mère?
Oui.
Quel âge avez-vous?
25 ans.
Tant que ça.
Bon. Écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Qu'est-ce que vous faites?
Merci pour le thé, pour le pain. Au revoir, madame.
Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai un grave défaut. Je n'aime pas qu'on se moque de moi.
Je ne me moque pas de vous, pas du tout. Ou alors c'est malgré moi. Vous êtes vraiment très susceptible.
Très.
Alors, ça a été trouvé.
L'hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau.
Oui. Et... Film de...
95,
bravo. Et elle donnait la réplique à Olivier Martinez, 2,5 millions de spectateurs hein, lors de sa sortie. Allez, troisième extrait.
Oh, c'est bouillant. Oh là là, oh, le trottoir, il est bouillant. Comme à New York, à midi, l'été. C'est incroyable.
Mais oui, t'as pas lu les journaux. C'est le passage de la comète de Halley. À 10 000 km de la Terre, cette nuit, qui provoque cette chaleur épouvantable. Ça va durer encore quelques jours.
La comète de Halley? Allez.
Mais si, Anna, une grosse boule de neige et de poussière, c'était prévu.
C'est incroyable.
Non, c'est scientifique, prends mon lit.
Alors, ça a été trouvé.
Mauvais sang. 86, du
oui,
coup.
Film de Léo Scarrax, atypique, daté pour certains, pour moi intemporel hein, dans sa forme et ce qu'il raconte, où il est question du sida, mais de manière métaphorique à cette époque. Et,
C'était la voix de Denis Lavant qu'on
oui,
entendait.
Oui, évidemment. Donc, bah, ça a mis en avant Denis Lavant, Juliette Binoche, et il y avait aussi eh bien, Piccoli dans ce film. Un autre extrait.
Mon Dieu, que c'est beau. André, d'où Jésus, que c'est beau. Oh, regardez-moi ce paysage que vous avez là. Oh, Billy, n'avez-vous jamais rien vu? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Ouais, papa, vous venez tous les ans, hein, vous venez tous les ans.
Bah, dites donc, vous, grand méchant, vous me prenez pour un exalté. Ou alors je viens trop fréquemment, c'est cela? Je viens trop fréquemment? Isabelle, dites quelque chose, enfin, dites quelque chose.
Alors, tu parlais de cabotinage hein, tout à l'heure, là.
Là, oui,
hein.
Là, c'est
donc, peu, ouais. Malout de 2016. Oui. Dernier extrait.
Mon amour, je t'attends. Combien de temps dure une journée dans l'obscurité? Ou une semaine? Le feu s'est éteint maintenant. Et j'ai horriblement froid. Je devrais me traîner jusque dehors. Mais alors le soleil me brûlerait. Peut-être que j'ai gaspillé la lumière pour regarder les peintures et pour écrire ces mots.
Alors, 4 personnes qui se réfugient en Toscane après la guerre et leur destin est bien
et la musique de Gabriel Yared.
Film Le Patient Anglais d'Anthony Minghella.
Oui. De 1996.
Ah, qu'est-ce qu'on a pleuré dedans. Qu'est-ce qu'on a pleuré.
En tout cas, beaucoup de films. Hein. Les films que j'avais choisis sont essentiellement dans les années 90, sauf Malout. Voilà. Ainsi s'achève bien ce blind test autour de la carrière de Juliette Binoche. Et nous parlions de La Bonne Épouse en salle depuis le 11 mars, tout comme Congo de Adrien Lavapeur et Corto Vaclav, une plongée dans le monde de l'invisible.
This
is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
6 ans, hein, c'est le temps qu'il aura fallu aux deux réalisateurs, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav, pour sortir Congo, un documentaire qui s'empare d'un sujet surprenant, la magie, noire ou pas, la sorcellerie au Congo, un pays que les co-réalisateurs nous font approcher en suivant l'apôtre Médard, un guérisseur de la confrérie des Ngunza, et qui reçoit chaque jour à Brazzaville quantité de Congolais. Alors, il peut s'agir de désenvoûter, de favoriser la rencontre d'un mari, de guérir même une blessure. Médard est un entremetteur, il s'arrange pour prendre les démons et les isoler dans des fiole qu'il va ensuite jeter dans l'impressionnant fleuve Congo. Mais comme si nous étions dans une fiction bien orchestrée, eh bien l'apôtre Médard va passer de guérisseur à coupable d'avoir envoyé la foudre s'abattre sur 2 enfants en pleine saison sèche. Oui, assez surprenant. Alors je vais vous passer la méthode de jugement d'un tribunal qui apparaît comme une mise en scène. Pourtant, tout est vrai. Hein. Tout ce que nous montrent les deux réalisateurs se passe dans un Congo à milieu de notre rationalité. Le geste cinématographique salutaire d'Adrien Lavapeur et Corto Vaclav est de ne pas prendre de distance avec leur sujet, c'est même de croire avec eux. Hein. Congo est une quête de l'invisible. On parle d'esprit, de sort, de transe, de sirène tout d'abord, avec peut-être une certaine réticence qui finit par s'estomper tant la forme de ce documentaire accompagne son sujet avec une bande sonore travaillée, des images tour à tour banales ou allégoriques. Alors il y a une formidable séquence où Médard se retrouve au bord du fleuve Congo, hein, une masse d'eau impétueuse qu'on imagine brassant des sirènes, ou encore l'apôtre Médard en habit traditionnel au milieu des pelleteuses chinoises, venues extirper le minerai du sol congolais et dérouter les cascades où vivent les sirènes. Et c'est d'ailleurs cette image qui a été choisie pour l'affiche du film. Car si Congo veut nous faire prendre part à l'invisible, il parvient également à montrer comment la diversité de la société congolaise a été malmenée par les colons et davantage maintenant par les capitalistes. Alors les deux réalisateurs ont rassemblé énormément d'images avant d'accoucher d'un documentaire qui tient en moins d'une heure et quart. Un film remarquable, nous en avons discuté avec Adrien Lavapeur, le co-réalisateur.
C'est du jamais vu. C'est comme un cauchemar. Apôtre Jean Médard, est-ce que nous parlons de Dieu?
Bonjour, Adrien Lavapeur. Donc, vous êtes co-réalisateur avec Corto Vaclav d'un documentaire assez étonnant, assez surprenant et assez inattendu dans le paysage cinématographique français qui s'appelle Congo. Alors, bien, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à partir au Congo et nous raconter ce qui se passe autour de la magie noire là-bas?
L'histoire de ce film a d'abord commencé au Brésil. Moi, je me suis retrouvé là-bas, c'était en 2009, et j'ai participé à un rituel d'ayahuasca. Alors, peut-être certaines personnes ne connaissent pas, mais c'est une boisson qui donne des visions, qui vient de la forêt amazonienne. Et en même temps, l'esprit sort de notre corps et va dans le monde astral. Et de par cette expérience avec cet autre monde, ce monde divin, on pourrait dire, j'ai eu des questionnements et j'ai eu besoin de faire des recherches. Et après, la vie m'a emmené au Congo pour j'avais un travail là-bas de caméraman. Et forcément, j'ai cherché à rencontrer qui étaient ces gens qui communiquaient avec ces esprits. Et je suis tombé sur cette église Ngunza. Donc c'est le nom local. C'est des vaudous, en fait. Et donc c'est une église, ils se retrouvent le dimanche pour prier, mais c'est aussi comme un hôpital spirituel. C'est-à-dire que chaque matin, notre apôtre qui s'appelle Médard, c'est celui qui dirige l'église, il reçoit des patients, des malades qui sont atteints de mauvais sort. Et puis il fait des rituels et il les guérit. Donc au début, c'était vraiment une recherche sur les esprits. C'est vrai qu'on voulait plutôt faire un film peut-être un peu plus pédagogique pour raconter cette histoire de guérison divine. Parce que il faut savoir que quand Médard guérit, c'est pas lui-même qui guérit, c'est qu'il convoque des esprits pour aller combattre ses mauvais sorts. Donc Médard, on pourrait dire, c'est un intermédiaire. Donc ça, c'était l'idée de départ. Mais très vite, en suivant Médard, on est rentré dans ses problèmes, tous les problèmes qui lui arrivaient. Alors, bien sûr, liés à l'invisible, et c'est presque devenu. On a essayé presque de faire le film comme une fiction, malgré le fait que ça soit un documentaire. Mais ce premier projet de départ pédagogique s'est trouvé très vite éclaté. On pourrait dire l'Afrique nous a rattrapés. Hein. «
Vous avez raison de parler de fiction et de frontières avec le documentaire, parce que ça va très loin, et pourtant on a l'impression qu'ils sont vraiment en transe, qu'ils sont convaincus de ce qui se passe, alors que moi j'ai une certaine réticence finalement à admettre ce que je vois.
C'est vrai que le Congo, c'est sur la planète Terre, donc c'est la même planète, mais c'est vraiment un autre monde, tellement éloigné de ce qu'on peut connaître ici en Occident. Nous au début on se posait beaucoup la question quand, face à des personnes en transe ou face à des rituels, on se demandait est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Et ça, c'était un peu finalement une habitude occidentale aussi, parce que nous on a tendance ici en France à étiqueter les choses, à mettre dans des catégories. Il faut savoir qu'en Afrique, en tout cas au Congo, les frontières entre le vrai et le faux sont beaucoup plus poreuses. C'est-à-dire que une chose peut être vraie à la fois et fausse aussi. On n'est pas dans une dualité implacable. Et donc nous, on a dû faire tout un travail pour, on pourrait dire, décoloniser notre regard. C'est-à-dire arrêter de juger ce qu'on voit, arrêter de se poser mille questions et juste être là en train de filmer. Et c'est à partir presque de ce moment-là qu'on a pu trouver la bonne distance pour faire ce film.
Peut-être on peut parler de la forme. Alors il y a évidemment tout ce qu'on voit, il y a des choses qui peuvent apparaître spectaculaires, mais il y a aussi l'accompagnement d'une musique.
Parce que nous au Congo, en découvrant cette société-là, on a vraiment eu l'impression d'être à l'intérieur d'un conte, à l'intérieur d'une sorte de musée du surréalisme à ciel ouvert. Et on a aussi fait appel à Michel Redolfi, comme c'est un film qui parle des sirènes, finalement. Il fallait aussi qu'on pénètre un peu ce monde des sirènes, et c'est vrai que la musique, par le son, on a, en tant que spectateur, ça déclenche aussi un voyage presque... C'est plus facile de pénétrer ce monde-là par le son.
C'était Adrien Lavapeur, le co-réalisateur de Congo, documentaire dans les salles depuis le 11 mars, tout comme Trois étés de Sandra Cogut, critique du Brésil ravagé par le monde néolibéral.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Mada est gouvernante, donc domestique en chef, dans la luxueuse propriété de Edgar et de Martha. Chaque été en décembre, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud au Brésil, le couple organise une grande fête. Mais nous sommes en 2015 et la lutte contre la corruption se met en place. Edgar et Martha vont en trois étés glisser du luxe jusque vers la casse-prison. Mada, de son côté, va se retrouver en charge de leur propriété et peu à peu prendre sa revanche sur la vie. Alors, il faut savoir, pour situer ce film, qui commence donc en 2015, que depuis 2014, une opération de grande ampleur a été mise en place au Brésil, appelée Lava Jato, dont le but est de faire tomber tous les hommes politiques corrompus. Le peuple brésilien vit vraiment au rythme des interpellations, des procès qui sont bien évidemment relayés dans tous les médias et qui ont permis donc de mettre en prison pas mal de notables corrompus. Après son film, Une seconde mère, assez remarquée d'ailleurs, la réalisatrice brésilienne Sandra Cogut place l'intrigue de sa 10e réalisation dans ce contexte. Sandra Cogut a été initialement formée au cinéma par le biais du documentaire et ça se ressent. Il y a un vrai souffle de vie qui traverse ce film. Je me suis surprise parfois à devoir me rappeler justement que ça n'était pas un documentaire. Et pour cause, on est vraiment dans la chronique sociale interprétée par des comédiens qui n'ont pas l'air de jouer, en fait. Et ça, c'est très rafraîchissant, d'autant que contrairement au film précédent de Sandra Cogut, les comédiens sont tous ici professionnels. On retrouve notamment Regina Casé, qui avait déjà joué dans Une seconde mère, de la même cinéaste. Alors moi, je ne la connaissais pas, mais le film tient vraiment sur ses épaules. Elle est vraiment incroyable. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix sur des festivals brésiliens. On pense, avec Trois étés, on pense très vaguement à Parasite de Bong Joon-ho. Alors, pour le point de vue adopté par la réalisation du côté des personnages pauvres, qui sont dépeints avec une certaine tendresse, pas mal d'humour grinçant. Comme Parasite, le film explore les rapports entre les puissants et les faibles et comment ce rapport peut parfois s'inverser. Et comme dans Parasite, le film n'est jamais manichéen. Les films ne sont pas décrits comme des personnages uniquement positifs. Je parlais tout à l'heure de revanche sociale. C'est une métaphore. Le personnage de Mada n'est pas du tout revanchard. C'est un personnage d'une naïveté déconcertante et d'un optimisme absolu. Et le film est vraiment au diapason de ce personnage, oscillant entre un humour un peu absurde et le drame doux-amer. Dommage, en fait, que le film soit un peu trop lent. Il décolle jamais vraiment. Donc on n'est pas vraiment dans une comédie au sens parce qu'une comédie ça implique du rythme. Mmh. Et là c'est vrai qu'il y en a vraiment pas. C'est un film qui est très doux.
On en a fini maintenant avec l'actualité cinématographique et on va maintenant aller du côté des reprises, celle de Blue Velvet de David Lynch.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Je me sens impliqué dans un mystère malgré moi, un mystère qui me fascine.
Tu aimes tant que ça le mystère ?
Oui. Tu es un mystère. Et je t'aime. Je t'aime beaucoup.
Alors un mystère mystérieux, hein, sur fond de romantisme et d'ironie vénéneuse, hein, tel pourrait être décrit comme ça vite fait le Blue Velvet de David Lynch. Alors après l'échec critique et financier de Dune, hein, 2 ans auparavant, David Lynch revient avec un projet en 86, plus modeste, là où personne ne l'attendait, un thriller classique avec des teenagers. Alors toujours produit par Dino De Laurentiis, hein, doté d'un budget beaucoup plus modeste de 5 millions de dollars, Blue Velvet n'en reste pas moins la matrice de son œuvre à venir, enfin, une plongée dans un monde en trompe-l'œil, faussement contaminé par la normalité. Alors l'ouverture en est parfaitement représentative sur la chanson Blue Velvet de Bobby Vinton. La caméra filme des roses rouges, un camion de pompiers au ralenti, une jolie maison pavillonnaire, des écoliers très disciplinés qui traversent la route, un vieil homme qui arrose son jardin pendant que son épouse prend le thé. Alors bienvenue dans le monde ordonné et presque paradisiaque des années 50 où les gens vivent dans le meilleur des mondes. Mais subitement, le vieil homme tombe, visiblement atteint d'une crise cardiaque. La caméra avance à ras de terre près du sol. Le scrut se rapproche de l'herbe verte et glisse à l'intérieur de l'herbe, donc nous présentons alors des cafards agités et bruyants, créant une atmosphère anxiogène. Alors tout est dit dans ce prologue génial, profession de foi du cinéaste. Derrière la beauté, bah, se cache la laideur, il faut creuser la surface pour découvrir les ténèbres. Le scénario de Blue Velvet est entièrement structuré autour de cette ligne de conduite. Alors on est bien dans une petite ville américaine imaginaire des années 50, Lumberton, donc on découvre un jeune étudiant, Jeffrey, qui est rappelé par sa famille suite au décès de son père. Alors dans un parc, il découvre une oreille, élément qui apporte d'emblée une étrangeté. Cette découverte en amène une autre lorsqu'il joue détective privé ou au voyeur accompagné de la fille du shérif local, Sandy, qui lui chuchote quelques révélations excitantes. Alors ces révélations l'amènent à épier la chanteuse de cabaret Dorothy Valens, impliquée dans une histoire de meurtre. Jeffrey s'introduit chez elle en son absence, mais Dorothy rentre plus tôt. Le jeune homme se cache dans le placard et ce qu'il va découvrir va littéralement dérégler son monde, ses croyances. Il va basculer de l'autre côté du miroir, immersion dans un cauchemar qui prend l'allure d'une quête initiatique où un jeune homme innocent va découvrir le mal. Alors, refusé au Festival de Venise à l'époque, hein, pour cause d'érotisme trop sulfureux, primé au Festival d'Avoriaz, où il a remporté le Grand Prix alors qu'il n'a pas grand-chose à voir avec le fantastique, Blue Velvet est devenu culte avec le temps, mais sa réception à l'époque fut mitigée. La structure classique du récit, un mélange de teen movie, rose bonbon et de films noirs burlesques et pervers, n'est qu'apparente. David Lynch dissémine des éléments bizarres au compte-gouttes, introduit par petites touches des détails insolites jusqu'au moment fatidique où apparaît le maléfique Frank, alors génialement incarné par Dennis Hopper, hein, au jeu très bizarroïde, une sorte de pantin désarticulé échappant au contrôle de son maître. On retiendra notamment ce moment délirant où Dean Stockwell, d'ailleurs j'ai toujours cru que c'était, à chaque fois dans mon souvenir, j'ai l'impression que c'est Dennis Hopper qui chante, mais non, c'est Dean Stockwell qui se met à chanter en playback du Roy Orbison entouré d'une galerie de freaks pathétiques et flippants.
Clown en sucre.
Sois pas un gentil voisin pour elle. Sinon je t'envoie une lettre d'amour. Du fond de mon cœur, fillette. Une lettre d'amour, tu connais. Une putain de balle de revolver, enfoiré. Si tu reçois une lettre d'amour de moi, tu finiras au fond d'une tombe. Est-ce que t'as compris, salaud? T'as intérêt à te tenir, sinon je te fous les tripes à l'air. Écoute-moi ça. Je marche avec toi. Dans mon rêve, je parle avec toi.
Alors davantage qu'une critique, hein, de la société américaine qui cache ses démons, alors ce qu'il est, la Nouvelle Bête est une chronique adolescente sur la transgression, la découverte du monde des adultes qui ne se limite pas à celle de l'entourage. Alors le héros va découvrir le mal à travers Frank et Dorothy, hein, mais également en lui-même, bouleversant sa vision de la vie, à peine parasité par cette fin insolite, faussement idyllique, représentation d'un bonheur factice tel que l'imagine sa petite amie bercé par les contes de fées. Mais un des derniers plans montre un oiseau avec un verre dans la bouche, réitérant presque l'idée du début avec les cafards. Alors l'innocence n'existe pas, si la pureté n'existe pas en se frottant aux pulsions les plus secrètes, le jeune homme va aussi découvrir la sexualité et l'amour. Alors baignant dans un scope magnifiquement mis en image par son chef-op Frédéric Helms, et puis bercé par la musique hypnotique d'Angelo Badalamenti, Blue Velvet est une merveille qui contient, on va dire, à l'état embryonnaire toutes les thématiques à venir dans Twin Peaks, Lost Highway, Mulholland Drive.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez-moi le camp !
La semaine prochaine, Marine, tu parleras d'un film que tu as beaucoup aimé.
Oui, ce qui s'appelle Fille de joie avec Sarah Forestier, et également d'un autre film qui s'appelle Petit pays avec Jean-Paul Rouve.
Et puis nous écouterons les co-réalisateurs de Fille de joie également. À la semaine prochaine.